Couture.
Je l'aime beaucoup, cet homme-là.
Dans le mythe.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Avec Pierre Couture et Frank, le dédomiseur.
Radio X.
Ouais, ben Donald Trump vient d'en remettre ce matin là sur True Social puis sur X partout là, il ajoute des tarifs à partir du 1er janvier 2027, des tarifs notamment sur les voitures, les camions, toutes les pièces d'auto et l'acier. D'après moi, il frappe pas mal l'Ontario là. D'après moi, c'est Doug Ford la cible là. Il met 50% de hausse de tarifs à partir du 1er janvier.
Lui, il est sur le bord de perdre les pédales, certains. Ben rappelle-toi que la dernière fois, il a vidé une bouteille de Crown Royal à terre. Là.
Ah oui, parce que l'usine part de l'Ontario puis s'en vient au Québec.
Mais là, il va faire quoi? Là? Déchirer son linge?
Ah non, lui, c'est une crise de bacon dans l'allée. Là. C'est ça, Doug Ford, non, c'est une crise de bacon, tu sais, comme un enfant de 2 ans. Là. Dans l'allée Canada-États-Unis, là, pour aller aux douanes, sur le pont Gordie Howe, il va faire une crise de bacon, là, c'est sûr.
C'est sûr qu'il y a une crise là.
Bon, pour parler de tout ça et bien d'autres choses, Étienne Alexandre Beauregard, ex-stratège politique, aujourd'hui chercheur, comment ça va?
Ça va très bien, vous deux.
Ben oui, ça va bien. Écoute, là, il y a du stock en masse. Comment tu vois ça? Toi, t'as été stratège politique. Qu'est-ce que tu dis, mettons, à tes politiciens? Comment tu vois la game? Comment Mme Fréchette peut tirer profit de tout ça?
Oui, mais ce qui est un peu pervers en ce moment, c'est que d'un point de vue purement stratégie, je pense que nos politiciens ont en quelque sorte, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, ont avantage à ce que la crise se poursuive, voire empire. T'sais, vous parliez de Doug Ford avant.
Ouais.
C'est probablement la manière la plus cynique qu'on a vue de gérer tout ça. Là. T'sais, je veux dire, clairement, la gestion du conflit de M. Ford, ça a été de faire monter la tension pour faire monter son image personnelle. On l'a vu quand il a déclenché l'élection au début de toute cette crise-là,
ouais,
avec sa fameuse casquette, hein, Canada is not for sale. Là, vous parliez qu'il vide une bouteille de Crown Royal. Mais est-ce que ça a amélioré la posture de négociation du Canada là-dedans? Je pense que c'est assez clair que non. Puis bon, comme premier ministre provincial, c'est toujours limité hein, le pouvoir qu'on peut avoir, sinon un pouvoir de nuisance dans son cas. Mais même au Québec, Mme Fréchette se retrouve un peu dans la même situation où elle n'est pas à la table de négociation, mais veut un peu jouer de l'effet d'être au pouvoir. Mais c'est un peu difficile de jouer sur les deux tableaux dans ce cas-là.
Mais toi, là, est-ce que tu as entendu, je veux pas que tu dévoiles les secrets de rencontres que tu avais peut-être avec des premiers ministres ou des politiciens, mais ça fait-tu partie de la discussion à un moment donné comme stratège de peut-être évoquer le fait que tu peux faire du millage parce qu'on rentre en campagne électorale puis dans un sondage, t'es pas loin en arrière, t'es loin en arrière, là.
Ben écoute, c'est sûr, moi je pense pas qu'il y a des politiciens qui veulent aggraver quelque chose, qui veulent aggraver le bien-être de la population pour leur propre intérêt. Là. Si oui, c'est marginal. Cela dit, c'est clair que quand tu es dans une situation de crise, c'est un effet politique qui est très connu, que souvent ça va bénéficier au gouvernement en place. Puis ça, c'est clair que le gouvernement actuel, qu'il soit libéral à Ottawa ou caquiste à Québec, est au courant de ça. C'est déjà toute l'idée de hey, est-ce qu'on va suspendre en partie la campagne pour faire une réunion d'urgence?
Il y a une question d'un journaliste là-dessus. Même le média, tu peux penser, peut être intelligent aussi, là.
Oui, exactement. Mais à partir du moment où ce genre de choses-là arrive, c'est clair. Puis, tu sais, il peut y avoir une justification à ça. Mais quand ça arrive, c'est qui a l'air d'être en position de leadership? Bien, évidemment, c'est le premier ministre. Tu sais, c'est lui qui est à la tête de la table. Là. Tous les chefs d'opposition, ils sont pas dans la position qu'eux veulent avoir parce qu'eux veulent se montrer justement comme des leaders, etc. Mais à chaque fois qu'on a ce genre de situation-là, où, ben, d'abord, les oppositions sont un peu dans le noir parce qu'eux ne sont pas au pouvoir, ne savent pas qu'est-ce qui se négocie, qu'est-ce qui se discute. Ils ont l'air un peu du petit frère à côté du grand frère au pouvoir. Là. Fait que c'est sûr que pour le citoyen, quand tu vois ça, tu te dis « OK, c'est qui est en charge? »
Mais là, on a l'impression un peu d'être dans le jour de la marmotte. Là. C'est des mauvais souvenirs qui refont surface, les conférences de presse style COVID un peu. Et là, on a l'impression qu'on va vivre une deuxième élection sous la même thématique de fond de crise où les partis politiques vont essayer d'amener leurs sujets, vont essayer d'amener leurs propositions, mais tout ce qu'on va pouvoir parler, c'est Trump, la guerre tarifaire, les entreprises, les programmes d'aide. Il faut être unis. Ça a déjà commencé, là. Les chefs, là, c'est pas le temps de faire de la partisanerie. Bien, c'est pas le temps de faire de la partisanerie. Les amis, il y a une élection. C'est pas mal le temps de faire de la partisanerie quand il y a une élection. Fait que toi, c'est quoi le risque que tu vois pour les politiciens là, à la ligne de départ de l'élection. Là. Parce qu'on sait, là, au fédéral, il y en a un qui s'est fait voler un avance de je sais pas combien de pourcentage dans les sondages et qui s'est ramassé à l'opposition, là, à Cop et à Poilievre. Est-ce que c'est ça qui attend PSPP ou qui risque?
Bien, ça, honnêtement, ça va être à voir parce que c'est clair, en tout cas, que la CAQ espère faire un Carney. Là, je veux dire, se débarrasser du chef pour avoir quelqu'un d'autre qui a un peu, en tout cas, qui a un peu le même style, qui s'en revendique, qui d'ailleurs se colle beaucoup sur lui. Là. Ça fait plusieurs conférences de presse qu'on les voit faire ensemble, Mme Fréchette, M. Carney.
Bien, aujourd'hui, là, à Davy, là, ils vont être là, ils vont annoncer des milliards d'investissements dans la région de Québec.
Oui, absolument. Mais la grosse différence, en fait, avec la pandémie, c'est que le système de santé, c'est provincial. Alors que tout ce qui concerne le libre-échange, le Québec a juste un pouvoir imparfait, indirect là-dessus. Sur certains enjeux comme la SAQ, etc., c'est nous qui peuvent décider est-ce qu'on garde les alcools américains, est-ce qu'on les supprime. Mais de fait, Mme Fréchette ne sera pas à la table avec Donald Trump. Là. C'est juste un fait. Fait que rendu là, est-ce que ça va avoir vraiment le même impact sur les Québécois? Je le sais pas. T'sais, déjà en début 2025, à l'époque où j'étais encore au gouvernement, on se disait justement, est-ce que on peut avoir un effet Doug Ford au Québec, par exemple, qui renforcerait M. Legault du fait qu'il y a des circonstances extraordinaires, de dire qu'on va justement protéger le Québec. Est-ce que le réflexe, justement, de dire oh, le gouvernement en place, on va rester avec, il est moins présent, clairement. Puis je pense qu'il y a tellement de facteurs qui expliquent ça, mais au Québec, là, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Québécois sont beaucoup plus préoccupés de la politique provinciale que de la politique fédérale. Mmh. Fait que ce coup-là, qui a été fait, en fait, au fédéral là, avec M. Carney, etc., c'est aussi parce que les citoyens, ils suivent pas particulièrement tant que ça. Puis quand les citoyens ils sont fâchés, bien, comme c'est le cas en ce moment, là, clairement, le gouvernement n'a pas une cote d'approbation qui est positive, quoi qu'on en dise. Est-ce que ça va être assez, ce genre de choses-là, pour faire oublier un peu ça aux citoyens? T'sais? Dans le fond, on pourrait dire que si la CAQ a ce qu'elle veut, ça va être vraiment un choix entre la sécurité face à la crise versus le désir de changement. Puis là, oui, il y a une analogie à faire avec le fédéral, mais comme je vous disais, vu que le Québec a un pouvoir insuffisant, on peut dire, sur ces questions-là, là, je veux dire, il n'est pas en charge, c'est pas lui qui est dans le siège du conducteur quand il y a des négociations internationales, bien, je ne sais pas si ça va jouer de la même manière.
Là, je regarde, les nouveaux tarifs qui sont entrés en vigueur dans les dernières heures, là, c'est 5 % seulement des exportations canadiennes vers les États-Unis. Ça, il n'y a pas grand monde qui en parle. 5 % seulement. À un moment donné, on peut-tu partir une guerre puis une espèce d'attaque puis d'un show à la COVID alors que tu sais, on vient d'avoir des entrepreneurs ici là, qui étaient au micro, puis ils nous disent nous autres, là, on veut entendre d'autres choses là, que des chèques, puis nous aider. Là, on veut entendre une politique de partir vers les États-Unis, puis peut-être même favoriser là, l'ouverture d'usines aux États-Unis, mais en regardant les sièges sociaux au Québec.
Oui, bien, ça, c'est un bon point. En fait, je pense que le seul que j'ai vu ce matin dire ça, c'était Pierre-Olivier Zappa dans le Journal de Montréal, hein, qui disait attention, c'est juste 5 %, fait que devenez pas fous. Mais oui, c'est. Quand on sort avec des gros chiffres, hein, comme 50 % de tarifs, 35 % de tarifs, etc., c'est sûr, c'est facile un peu de grimper dans les rideaux, mais il faut toujours voir les impacts directs de ça. Puis d'ailleurs, l'applicabilité réelle de ça, quand c'est juste le président qui le décrète, que c'est pas encore passé par le Congrès,
etc., exact.
C'est toujours un peu hasardeux. Fait que comme vous dites, il va falloir voir qu'est-ce qui dure dans le temps. Puis bon, en plus, on connaît, disons, le style de gestion des États-Unis maintenant. Là, je veux dire, on annonçait il y a 2-3 jours qu'on avait un deal. Puis là, finalement, oups, c'est des tarifs de 50 %. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça change tellement rapidement qu'à un moment donné, moi, ça m'arrive de me demander si les citoyens, ils font juste décrocher, là, tu sais, de dire, ah, ben là, j'ai pas suivi le dernier revirement. Je ne sais pas si on est rendu à 50 %, à 35 %, à zéro, à un deal. Est-ce que c'était l'industrie? Est-ce que c'était l'autre? Il y a un point où c'est tellement imprévisible puis dur à lire que même comme citoyen, on finit par se perdre.
Oui, mais tu sais, tu as des sondages encore récemment qui disent que 75 % des Canadiens appuient Carney, mais ils n'ont même pas vu l'entente. Ils ne savent même pas ce qu'il y avait dans l'entente.
Oui, absolument, on n'a pas vu l'entente. Puis à ce moment-là, effectivement, le gouvernement a le beau jeu de dire « Ah, vous savez, c'était pour protéger la culture québécoise qu'on est sorti de la table. » C'est ça, ben, les bloquistes et les péquistes ont roulé des yeux un peu en disant « Est-ce que c'est crédible? » J'avoue que moi aussi, ça me c'est un peu particulier. Là, est-ce que bon, vraiment, le Parti libéral du Canada, c'était ça la chose qui a cassé le truc? Là?
Ouais.
C'est sûr que quand on lit d'autres choses, par exemple, qu'eux suggèrent qu'ils étaient proposés comme d'avoir quasiment un droit de veto américain sur toutes les ententes de libre-échange ou sur les ressources canadiennes, ben ça, c'est clair. Là, je veux dire, n'importe quel État veut préserver sa souveraineté de base. Fait que ça, on ne peut pas les blâmer de rejeter ça, là, évidemment, parce qu'on ne veut pas... On ne veut pas une annexion. Là. Aucun gouvernement canadien voudrait être celui qui cède les pouvoirs aux États-Unis.
Là, c'est parce que, Étienne, on a entendu... Le problème, c'est qu'on a entendu quoi? 5-6 versions différentes du pourquoi, du comment. Il y a eu l'histoire de la langue et de la culture, Mais juste avant ça, on nous a dit « Ah, c'est parce que Lutnick est arrivé, puis il a fait dérailler Nego en demandant plein d'affaires qui n'étaient pas là à la base. » Ben là, c'est Lutnick, c'est 96 ou c'est quoi, là? Puis quand tu lis les médias américains, on nous dit « Non, non, c'est les Canadiens qui, à la dernière minute, voulaient rajouter des affaires là-dedans, notamment faire baisser les droits de douane sur l'acier à 7 % au lieu de tant de pourcentage. » Fait que là, on n'a pas de vraie version, puis on ne sait pas la vérité là-dessus. Peut-être qu'on ne la saura jamais non plus.
Oui, exact. Mais vous avez raison. Puis tu vois, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis un peu dubitatif du potentiel électoral de ce qui se passe en ce moment. Puis peut-être que l'avenir va pas me donner raison, mais l'affaire, c'est que quand on comprend pas les termes de base, quand le terrain de jeu est pas clair, bien, c'est dur de construire ton narratif politique là-dessus, puis après de faire en sorte que les gens y votent dessus. Tu sais, le COVID, on peut en dire ce qu'on veut, mais au moins c'était assez clair. Tu sais, je veux dire, les gens, ils voyaient bien qu'il y avait une maladie qui était tangible, qu'il y avait des mesures.
Il y avait un virus, le monde tombait malade, ouais, c'est ça.
Exact. Puis il y avait des mesures qui touchaient de manière très concrète notre vie. Là. Je veux dire, si t'étais en couvre-feu, tu le savais en tabarouette, tu pouvais pas ne pas savoir qu'il y en avait un. Alors que là, comme on dit, c'est des tarifs diffus sur des industries dans lesquelles toi, tu travailles pas personnellement. Que le taux il change d'une semaine à l'autre, mais c'est vraiment tough de saisir puis d'avoir la même réalité méga tangible qui fait que tu vas voter 100 % là-dessus. T'sais.
L'élément dans la pièce, c'est la Chine, hein, de ce qu'on comprend aussi. Là. Parce que là, le Canada a ouvert des espèces de négociations de libre-échange avec la Chine. Je pense que les Américains veulent limiter ça. Puis dans l'accord de libre-échange nord-américain, ça limite aussi les interventions chinoises. Est-ce qu'il y a ça aussi derrière... On n'entend pas parler de ça vraiment, mais là, il va y avoir des voitures chinoises éventuellement au Canada. Beaucoup de voitures chinoises, ça agace, ça irrite beaucoup les Américains. Je pense que la Chine est là aussi, hein, dans le dossier.
Oui, ça se peut très bien. Puis ça, honnêtement, là-dessus, moi, je trouve que c'est une stratégie discutable là, de la part de M. Carney, parce qu'on le sait que la Chine, c'est la menace à l'hégémonie occidentale de notre temps. Là.
Américaine,
oui, on peut dire que les États-Unis, c'est une chose, mais d'une certaine manière, on profite tous quand même du fait que ce soit les États-Unis la première puissance mondiale. Je suis pas certain qu'on veut vivre dans un monde qui est dirigé par la Chine.
Juste, il y a des gens qui comprennent pas ça. Il y a des Québécois qui comprennent pas ça.
On dirait bien, mais je veux dire, c'est un régime complètement autoritaire, puis je vous garantis qu'il n'y a aucun de nos auditeurs qui voudrait vivre en Chine plutôt qu'au Québec. Là. Fait que, même chose pour les voitures chinoises. T'sais, on parle un peu à travers notre chapeau parce qu'on ne sait pas qu'il y a là-dedans, ce qu'il y a là-dedans, mais quand on connaît les pratiques d'espionnage de Pékin, par exemple, moi, je ne roulerais pas dans un char chinois parce que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont faire avec mes données. T'sais. Les autos, en plus, qui sont pratiquement des ordinateurs sur roues maintenant. Encore une fois, on se sert de ça pour essayer de faire un contrepoids aux Américains. Mais est-ce que c'est toujours dans l'intérêt du Canada? Puis après, on peut comprendre aussi des Américains de ne pas vraiment vouloir que leur allié le plus proche, qui est géographiquement à côté, se colle sur la Chine.
Ah oui, collé.
Exact, exact.
Puis tu as aussi toute la route du Nord, là, avec les sous-marins chinois puis russes qui viennent se promener, puis que les Canadiens font rien, là.
Ben c'est ça. Puis tu sais, après, on peut dire aussi que la stratégie des États-Unis là-dedans est peut-être pas parfaite, dans la mesure où si tu veux garder ton allié canadien proche de toi, ben peut-être pas l'attaquer de la manière que ça s'est fait. Tu sais, puis sur la question du fameux offshoring, la délocalisation, il y a plusieurs écoles de pensée sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour un peu renverser ça, parce que c'est clair qu'aux États-Unis, il y a une pensée plus protectionniste en ce moment qui voit que, ben, en fait, il y a des bons emplois ouvriers qui se sont perdus à cause de la délocalisation. Puis ça, c'est juste un fait. Puis même si on s'en préoccupe pas politiquement, je pense qu'on passe à côté d'une des grosses histoires de notre temps. Là, je veux dire qu'il y ait des bons emplois de classe ouvrière en Occident, ça devrait être une priorité, que tu sois américain, québécois ou quoi que ce soit.
Protectionnisme, oui, mais protectionnisme aussi. Les Américains sont devenus très protectionnistes.
Oui, exactement, à cause de ce constat-là. Parce qu'ils se sont dit, combien d'emplois on a perdu dans le Midwest pour du monde qui sont plus capables de travailler ou qui ont perdu un niveau de vie parce qu'on a exporté ça partout dans des pays en développement? Peut-être qu'on s'est trompé. Mais il y a une question, justement, est-ce que tu veux faire tout rapatrier dans ton pays puis même partir en guerre avec tes alliés ou faire ce qu'ils appellent du friendshoring, faire en sorte que quand tu as des emplois qui sont délocalisés, au moins que ce soit chez des alliés. T'sais, par exemple, c'est pour ça toutes les usines de micropuces qui sont à Taïwan sont pas en Chine parce que c'est trop stratégique, on veut que ce soit chez un allié. Mais si on est dans cette logique-là de dire « OK, on veut rapatrier un peu, mais incluant dans certains pays amis dans un intérêt géostratégique », à ce moment-là, partir en guerre commerciale avec le Canada, c'est un peu un non-sens. T'sais, je veux dire, le Canada va toujours être aligné plus sur les États-Unis que sur quelqu'un d'autre. Fait que j'ai l'impression que peut-être qu'ils ont un peu manqué le bateau à ce niveau-là aussi, puis que s'il y avait un intérêt, disons, que de ne pas partir en guerre avec l'ensemble de leurs alliés, bien, ça serait probablement plus facile à défendre pour eux après dans leur lutte contre la Chine, tu sais.
Quand il y a une crise, Étienne, l'habitude, les gouvernements demandent à avoir les coups des franges. On se rappelle quand il y a eu la grande crise financière, Jean Charest, son fameux slogan « Les deux mains sur le volant », il voulait avoir son gouvernement majoritaire. Là, on en a un gouvernement majoritaire, mais les prédictions en ce moment, c'est qu'on s'enligne peut-être plus vers un gouvernement minoritaire. Et là, si la CAQ remonte parce que les gens veulent avoir un peu de sécurité, puis Mme Fréchette est bonne, puis tout ça, là, ça veut dire que ça amène le Parti québécois au territoire encore plus minoritaire. Puis moi, je vois pas de scénario où le PQ s'effondre à ce point que la CAQ peut reprendre le pouvoir. Donc là, en fait, on nous vend de la sécurité, mais on pourrait s'enligner vers un scénario où on est plus instable que jamais, là, avec un PQ qui aurait, je sais pas moi, 50, 52 élus. Comment tu vois un peu ce paradoxe-là? Là, la thématique de la sécurité, mais en même temps sous fond de gouvernement minoritaire instable qui pourrait tomber à tout moment, finalement. Là.
Ouais, je pense que tu as tout à fait raison, Frank. Puis on le voit là, depuis un certain moment, le PQ a un bloc de vote qui est extrêmement solide, autour de 30%, 31%, quand c'est chanceux. Puis ce qu'ils ont fait la semaine passée, avec toute la question hein, de dire pas de référendum tant que M. Trump va être là, c'est qu'ils essayent d'aller chercher leur majorité. Là. Je pense que M. Plamondon, il voit ça un peu arriver, la perspective d'être minoritaire, puis que ça lui donne un petit peu froid dans le dos. Là. Il aimerait mieux que ça n'arrive pas, justement parce que c'est très difficile d'être dans cette position-là, surtout quand ton agenda, c'est la souveraineté. Là, ça amène toutes sortes d'instabilités. Puis bon, on se souvient de 2012, en fait. Je pense qu'ils veulent pas faire un Pauline Marois bis. Puis là, tu regardes le vote en ce moment. La question, c'est est-ce que le vote libéral va rester là? Est-ce qu'il va partir, par exemple, à la CAQ? Ou est-ce qu'il y a du vote caquiste qui repartirait vers le PQ? Est-ce qu'ils ont encore siphonné tout ce qu'ils pouvaient aller chercher là? Mais j'ai l'impression que tu sais, c'est pas un accident non plus si M. Carney il se colle sur Mme Fréchette.
Non, c'est clair. Là.
Clairement, ceux qui veulent pas qu'il y ait de référendum au Québec ont un peu abandonné la perspective d'un gouvernement charnigard là, qui s'est dynamité lui-même depuis le début de l'été. Là.
C'est épouvantable hein, comment les libéraux ont mal travaillé.
Oui, mais honnêtement, moi, des fois, je me demande, cette machine-là de pouvoir que tel parti libéral, qu'est-ce qui leur est arrivé? En 8 ans, est-ce que tout le monde compétent est parti? Ou est-ce qu'ils ont juste oublié comment faire de la politique? Mais pour vrai, moi, écoute, j'étais sûr là, au début de l'année 2026 qui disait, hey, il faut pas dire que les libéraux, ils n'ont pas de chance, puis tout. Puis là, s'ils ont un chef qui est quand même, qui se présente relativement bien, comme M. Milliard, est-ce qu'il pourrait causer la surprise par rejet du référendum et tout? Puis en plus, il est allé chercher des bons candidats au début de l'été. Mais là, depuis ce temps-là, on dirait, ben d'abord, ils ont perdu la moitié de ces candidats-là. Puis là, évidemment, ils sont enfargés aussi sur le français, les classiques libéraux.
Ben oui.
Là, c'est comme s'ils sont déjà plus dans la course alors que ça commence. Là. Je veux dire, c'est vraiment particulier la position dans laquelle il est en ce moment où je pense pas qu'il y a personne qui le voit gagner.
On rentre dans une course, en tout cas, d'une campagne électorale où, là, les partis politiques font appel à des sous-traitants. Là. C'est Olivier Primo, l'influenceur qui va faire campagne pour la CAQ.
Parnell pour les libéraux.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on tombe là dans une espèce de campagne électorale de 4.0 ou 5.0? Là, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler. Le rôle de Primo, qu'est-ce que tu vois, toi?
Ben, c'est vrai que c'est une relativement nouvelle tendance à ouais. l'échelle québécoise. Là, carrément, un parti qui va payer un influenceur qui n'est pas candidat pour faire la promotion de ses idées pendant la campagne. Puis là, bon, M. Primo, il a un peu rétro-pédalé en disant non, je vais être l'envoyé spécial de la première ministre auprès des PME.
Ben
mais
ouais.
je pense que tout le monde voit clair un peu dans la manœuvre. Là. Je veux dire, c'est une dépense publicitaire. Puis d'une certaine manière, c'est ça le modèle des influenceurs. Je veux dire, entre un parti politique et une marque de savon, si t'es payé et qu'ils font la promo de ton contenu parce ouais. qu'ils sont d'accord avec ce que tu fais, moi, j'ai pas de problème éthique avec ça dans la mesure où c'est ça le concept, c'est ça le modèle. Je veux dire, entre ça ou une agence de pub, une dépense, c'est une dépense. Cela dit, moi, je trouve ça intéressant parce que ceux qui suivent un peu la politique fédérale du côté anglo savent que, par exemple, le Parti conservateur du Canada, lui, ne paye pas d'influenceurs, mais a des influenceurs qui sont assez favorables à son message, qui reprennent les lignes, qui se montrent souvent avec M. Poilievre, qui, des fois, vont parler à la convention du parti. C'est des noms qui, sûrement, vont pas dire grand-chose à nos auditeurs qui suivent pas la politique du côté anglo, mais, par exemple, Jasmine Lane, Mario Zelaya, tous des gens qui ont une base de soutien dans le grassroots, entre guillemets, du parti, qui vont prendre des positions, qui sont parmi les acteurs de la mouvance conservatrice les plus connus. Puis je pense que c'est une réalité, en fait, avec laquelle on commence à dealer dans l'espace politique, parce qu'aujourd'hui, avoir un gros compte sur les médias sociaux, c'est prendre part au débat politique. Là. Fait qu'à partir du moment où tu as des gens, en plus, qui s'informent de plus en plus via les médias sociaux plutôt qu'exclusivement à travers les médias traditionnels, en fait, si tu n'as pas de relais, puis là, la question de savoir si tu les payes ou non en est une autre, mais si tu n'as pas des gens dans cet espace-là numérique que de plus en plus de gens consomment qui vont relayer ton message, mais c'est comme avoir un handicap en partant. Là.
Oui, donc là, on rentre dans quoi de nouveau au Québec? Aux États-Unis, il y avait plusieurs influenceurs dans la dernière campagne électorale américaine. Il y en avait de tous les bords, de à gauche, à droite, en haut, en bas. Là, ici au Québec, c'est nouveau. On va voir qu'est-ce que Primo va faire. On va peut-être avoir d'autres annonces aussi avec d'autres partis politiques puis des influenceurs plus directement. Ça va être intéressant. Étienne Alexandre Beauregard, toujours un plaisir. Merci beaucoup de ton analyse, puis on se reparle.
Merci à vous deux. Bonne journée.
Bye-bye.
Merci.
Voilà. Bye. Quand même très bon. Très, très bon.
Ben écoute, il était dans le war room pendant un bon bout. Là.
Ben lui, il a de l'expérience. Là. Un peu comme Rodolphe. Ils ont été des girons autour des partis politiques. Ils savent très bien qu'est-ce qui se dit quand il arrive une crise comme ça. Et on va essayer de la capitaliser. Là. C'est ça que Fréchette essaie de faire. Là. Essaie de mettre ça gros.
C'est ce que j'ai compris de son intervention aussi. Là. C'est que, comment disent les Anglais? Never let a good crisis go.
Laisse-la pas passer. Saute dessus, puis fait une vague là-dessus, surf. Ben, qui va peut-être avoir une entente d'une semaine, peut-être dans deux semaines, peut-être dans deux jours, on ne sait pas trop. Là. Voilà. Puis là, je regarde les marchés boursiers. Mais les marchés boursiers, là, je regarde le Dow Jones, c'est en hausse. Tu sais, quand il y avait eu l'histoire des tarifs avec Trump puis le Canada, il y a un an et demi à peu près, là, tu sais, les marchés boursiers, le Dow Jones avait planté de quasiment 1000 points. Là, c'est pas ça, il est dans le vert de 130 points. Là. Donc, c'est ceux qui pensaient qu'il y avait un écrasement. Puis là, je regarde le S&P 500, baisse un petit peu. Puis le Nasdaq baisse un petit peu, mais c'est pas des. Puis là, à Toronto, ça monte. Là. Donc, on est dans le vert à Toronto. S'il y avait une crise, ça serait à Toronto.
Ben oui, c'est sûr.
Il n'y a pas de crise. On parle juste de 5 % des exportations canadiennes qui viennent d'être taxées là, à partir des là, quelques heures.
Ben, il y a une crise dans les médias, en tout cas.
Ah, ben là, là-dessus, ils n'ont peut-être pas eu le mémo, je sais pas. Regarde. On va voir. Après la pause, tu nous jases de pas mal d'affaires. Hein?
Oui, on n'a pas. Le stock est plein, mon ami. On a des histoires avec un bunker à la Maison-Blanche. La sécurité aussi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 11 septembre? Notre obsession de la sécurité. On n'est pas sorti de l'auberge avec ça, Pierre.
Voilà. On revient après la pause.
Couture dans le mid. Radio X.